Bonjour à tous, bienvenue dans 7 jours dans le monde. Retour sur l'actualité internationale de la semaine qui nous emmènera à Alep. Avec cette annonce surprise de la Russie d'un arrêt théorique des frappes du régime syrien. New York, Donald Trump désigné personnalité de l'année selon Time. Rome, Matteo Renzi s'en va après avoir perdu son référendum. Et puis Berlin, Angela Merkel réélue à la tête de la CDU avant de tenter de remporter les élections l'an prochain. C'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Avec le professeur Jean-Luc Sauron, professeur à Paris Dauphine. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Qui nous propose et qui vous le rappelle régulièrement, faites l'Europe, pas la guerre. On parlera d'Europe d'ici une vingtaine de minutes, je vous l'annonçais il y a quelques instants. Frédéric Ancel est également avec nous. Bonjour Frédéric.
Bonjour Fabrice.
Professeur de relations internationales à Paris Business School. Et on le rappelle, puisque vous avez chacun un livre et que Noël se profile dans deux semaines, Géopolitique de la nation France, écrit avec votre maître
Yves Lacoste.
Le professeur Lacoste. Alors, intéressant aussi hein, ce qui s'est passé en Libye, on va le voir dans un instant, où Daesh a été chassé de son fief de Sirte. On verra ça. Je vous le disais, donc Alep avec cette annonce surprise jeudi soir du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.
Je peux vous annoncer que l'armée syrienne a suspendu les opérations militaires dans l'est d'Alep aujourd'hui parce qu'une vaste opération d'évacuation de civils est en cours. Il s'agit d'une colonne d'environ 8000 personnes. C'est une grosse opération et cette colonne est longue de 5 km.
Oui, l'arrêt théorique donc des raids aériens, des tirs d'artillerie de l'armée syrienne sur les quartiers aux mains des rebelles théoriques, parce que malgré cette annonce, malgré tout, de violents tirs d'artillerie se sont poursuivis sur la zone. Les troupes de Damas qui contrôlent désormais presque 90% de la partie que les islamistes avaient conquise donc en 2012. Frédéric Ancel, pourquoi une telle annonce? Pourquoi émane-t-elle de Moscou? Parce que jusqu'à présent, Bachar al-Assad, le régime syrien, s'était toujours opposé au moindre cessez-le-feu.
Oui, alors c'est ce qu'on appelle sur le plan humanitaire quelque chose de positif, donc un fameux corridor. Bon, et à chaque fois qu'une bombe ne tombe pas, des gens sont sauvés, donc on peut que s'en féliciter, c'est très bien. Soyons pas naïfs, sur le plan politique, c'est une évacuation de type épuration religieuse, hein, ou épuration ethno-religieuse, ou épuration, en l'occurrence, politique. C'est-à-dire que le pouvoir est en train de faire exactement ce qu'il avait fait à Homs et à Hama, c'est-à-dire que vous encerclez la ville, vous utilisez l'artillerie lourde dont ne disposent pas les adversaires, en l'occurrence, effectivement, une majorité d'islamistes. Vous utilisez évidemment l'aviation, les barils d'explosifs et parmi les chasseurs bombardiers, évidemment ceux de vos camarades russes pour écraser les ennemis dans la ville. Et une fois que vous en avez quasiment terminé et qu'il ne reste presque que des civils, eh bien vous exfiltrez. Alors évidemment, vous les exfiltrez, c'est-à-dire que vous distinguez les combattants réels ou supposés des autres, très bien, et on peut espérer, je dis bien, on peut espérer que sous supervision internationale, la plupart des civils seront sauvés et relogés ailleurs. Mais le ailleurs, ça signifie quoi? Ça signifie que l'Est d'Alep sera vidé d'habitants qui, pour au moins une partie d'entre eux, ont manifestement soutenu les rebelles. Et à la place, on mettra des réfugiés pro-Assad qui, eux, auront quitté d'autres régions, notamment sous la pression des islamistes. Et c'est ainsi que vous conquérez, j'allais dire, les âmes, les cœurs des nouveaux habitants de la ville que vous tenez parfaitement. Ça s'est produit à Homs et à Hama. C'est en train de se produire à Alep.
Évacuation soutenue par les Occidentaux, les Européens notamment, tout le monde s'incline face à Moscou, face à Bachar al-Assad.
Oui, c'est ça, c'est le bon verbe. On s'incline, mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu y aller. Et d'ailleurs, je ne dirais pas « on ». « On » a un prénom et un nom. « On », c'est Barack Obama. Hein. En 2013, il a refusé d'y aller face à Assad. À l'époque, il n'y avait pas de chasseurs bombardiers russes, je le rappelle. Et donc, c'est lui qui a fait reculer les Occidentaux sur la Syrie. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour vous répondre très concrètement, on est quand même très favorable à une situation, enfin, une évolution qui, sur le plan humanitaire, sera moins mauvaise. D'autant plus, c'est pas seulement qu'on a un grand cœur, d'autant plus que sur le plan militaire, on n'a rien pu faire, on n'a rien voulu faire, comprenez. Donc c'est évidemment là une porte de sortie, j'allais dire commode. Encore une fois, hein, qu'on se méprenne pas sur mes propos. Fondamentalement, c'est mieux si les gens quittent cet enfer de bombes et de missiles, très bien. Mais politiquement, on a perdu et ça marque le triomphe d'Assad et des Russes.
C'est ça, la bataille d'Alep a un tournant, mais peut-être la guerre en Syrie également. Bachar al-Assad est victorieux. Clairement, disons-le, Frédéric Ancel, il n'y a pas d'opposition qui a remporté le combat.
Non, il n'y a pas d'opposition. Je me suis trompé sur d'autres choses, mais pas sur Assad. Ça fait 5 ans que je dis et que j'écris, vous m'en êtes témoin, qu'Assad ne tombera pas. Pour plein de raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Le soutien inconditionnel des Russes, et d'ailleurs des Chinois à l'ONU, une partie de la population, notamment les minorités, qui l'a toujours suivi. Vous avez toute une série de conditions qui faisaient qu'il resterait au pouvoir, je l'ai toujours affirmé. Là, c'est vraisemblablement la dernière grande bataille de Syrie, car c'est la dernière des 4 villes, le reste ce sont des villages, à ne pas être encore totalement entre ses mains. Donc si vous prenez l'échelle des villes, donc Damas, Homs, Rama, Alep, d'une part, le littoral montagneux à la 8 et la fameuse base russe de l'Attaquie, doublée par celle maintenant de Tartous, d'autre part, vous avez la Syrie utile. Pour le reste, très franchement, vous avez les Kurdes au nord qu'on va pas chercher à aller embêter. De toute façon, on ne pourra pas. Assad n'a plus assez de force. Et puis à l'est, vous avez un patchwork à la fois de milices et de populations très majoritairement sunnites, donc ils ne veulent pas d'un retour du pouvoir à la 8, et que vous n'allez pas non plus aller enquiquiner pour une raison simple, c'est que l'Est de la Syrie, ça ne sert à rien.
Ouais, Jean-Luc Sauron, un mot, un commentaire?
Moi, j'étais frappé par le parallèle qui existe entre la situation aujourd'hui en Syrie et ce qui se passait dans les Balkans, et notamment en l'ex-Yougoslavie, où il y a eu le même nettoyage ethnique, la même structuration et la même impuissance européenne. Parce que la grande bagarre avait été portée par les Américains, et en Syrie, le fait que les États-Unis n'ont pas souhaité y aller, alors peut-être aussi en lien avec l'accord avec l'Iran, mais c'est quand même très très particulier. C'est parce que après, même si c'est bien, mais tous les débats actuels qui vont être revus bientôt dans le Conseil européen de décembre sur l'Europe de la défense, c'est bien, mais enfin, ça paraît assez vain par rapport à ce qui s'est passé, l'impuissance européenne dans cette zone.
Les islamistes d'Alep, hein, c'est pas l'État islamique, hein, on le rappelle, on le reprécise une nouvelle fois aujourd'hui dans 7 jours dans le monde, Frédéric Ancel.
Non, là aussi, c'est un agrégat de groupes, de milices, dont la plus importante, c'est Al-Qaïda. Je rappelle, et vous avez tout à fait raison de me le faire souligner, que Assad et Daesh, dans cette guerre civile, dans cette guerre syrienne extraordinairement meurtrière, sont complices. Complices. Ils sont littéralement alliés. Je rappelle que Assad avait libéré des centaines de djihadistes prisonniers dans la fameuse et tristement fameuse prison de Palmyre. Quant à Daesh, comme par hasard, comme par un heureux hasard, Daesh n'a jamais réellement frappé les troupes d'Assad. En revanche, chacun s'est débrouillé pour détruire tous les modérés qui pouvaient exister entre eux. Et ça me permet aussi de rappeler que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient en France, Monsieur Poutine ne frappe pas sérieusement Daesh. Ce n'est pas c'est un rempart parmi d'autres et très violent contre les islamistes radicaux dans la région, soit ce n'est pas un rempart contre Daesh.
Alors, Sirte, à présent, en Libye, reparlons aujourd'hui de la Libye, c'était la ville de Kadhafi, on est au bord de la Méditerranée, en plein milieu, regardez sur une carte. Sirte, aux mains de l'État islamique depuis un an maintenant, elle a été reprise aux islamistes à l'issue de combats acharnés. Frédéric Ancel, qui à mener les combats contre Daesh? Qu'est-ce qui a permis justement la reprise de Sirte?
Là encore, vous avez plusieurs forces coalisées pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui dans l'ensemble, dans la quasi-totalité du monde arabe, il n'y a, je pense notamment au Yémen, l'Irak bien sûr, la Syrie, la Libye, la Somalie, vous n'avez plus d'État, vous n'avez plus d'armée nationale, parce qu'il n'y a plus de nation, voilà. Il n'y a plus d'État. Et par conséquent, on compte sur des milices. Voilà. Donc vous avez là les milices ou les troupes du général Haftar, vous avez des milices qui provenaient davantage de la Tripolitaine, autrement dit de l'Ouest du pays, la Cyrénaïque, c'est plutôt à l'est, voilà, c'est ça, avec Benghazi, et tous et toutes étaient coalisés contre Daesh, d'abord, pour des raisons théologiques et religieuses, c'est quand même pas des rigolos, même si on est musulman tradit, c'est le moins qu'on puisse dire, mais d'autre part, parce que c'était des étrangers, ils étaient considérés comme des étrangers, qui venaient mordre sur les plates-bandes, et notamment les plates-bandes qui permettent une forme de trafic de contrebande très importante, car n'oublions pas que derrière tout cela, nous avons aussi des intérêts commerciaux et économiques très importants, mais à l'échelle des milices, et par conséquent, on a fini par bouter d'or avec une aide et notamment des armes légères en provenance des pays occidentaux, c'est vrai, on a fini par bouter d'or Daesh, le vilain petit canard.
Mais avec des bombardements américains, spécialement depuis cet été.
Absolument. Mais ce n'est pas pour ça que la Libye va retrouver son unité territoriale, et c'est même, j'ai envie de dire, que c'est moins que jamais le cas.
Oui, c'est évidemment un tournant, bien entendu, mais c'est pas non plus aussi la fin de l'État islamique en Libye, bien sûr. Les petits groupes se sont éparpillés. C'est vrai que l'État islamique recrutait de tout le continent africain, de la Tunisie, l'Asie, de l'Afrique subsaharienne. Vous étiez il y a quelques jours encore à Dakar avec Jean-Yves Le Drian sur dans un forum de la sécurité.
Forum paix et sécurité en Afrique, absolument, c'est le troisième. Et donc la France y participe en permanence avec Jean-Yves Le Drian. Et effectivement, il nous a été donné, comme l'an dernier d'ailleurs, de rencontrer sur place des chefs d'État, des chefs d'État-major, chefs de la diplomatie, qui tous nous disent, donc d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique sahélienne, qui tous nous disent à quel point ils sont effrayés par le danger du djihadisme. Ils considèrent ça comme une menace pour leur civilisation. Je précise bien pour vos auditeurs et vos téléspectateurs qu'on a là affaire à des gens musulmans, croyants, pratiquants, et en particulier au Sénégal. Eh bien, ces gens-là voient, à juste titre évidemment, les djihadistes comme de véritables barbares. Le mot a été employé au plus haut niveau de l'État et des chefs d'État dans les trois jours de colloque. Et j'ajoute que tous ces gens-là voient la France certainement pas comme un pays impérialiste et encore moins colonisateur ou néocolonisateur, mais comme un allié dans la lutte, comme une cible des djihadistes au même niveau que eux en sont une, et comme un allié extraordinairement précieux. Et ils rappellent avec raison pendant trois jours que la France a bien fait d'intervenir au Mali il y a trois ans et demi, presque quatre ans maintenant de cela, à l'appel, je précise, du gouvernement malien, des gouvernements de la région et sous l'égide de l'ONU. C'est très important de le rappeler.
Tout juste, Jean-Luc Sauron.
Ben, la situation libyenne a été beaucoup plus inquiétante pour l'Europe que la Syrie, parce qu'il y avait un affaiblissement majeur, enfin, c'est par le parti des terroristes sur la Tunisie, qui est quand même un des points d'appui assez importants de l'Europe dans l'Afrique du Nord. Et surtout, c'est en face de l'Italie. Donc moi, j'ai toujours eu des craintes énormes sur les conséquences que pourrait avoir, ou qu'aurait pu avoir, j'espère que c'est le danger s'est écarté, sur l'opinion publique européenne, de troupes de terroristes qui viendraient semer la mort dans le sud de l'Italie. Ça pourrait vraiment mais enclencher un mouvement extrêmement violent et contre l'islam, parce que les intelligentes remarques de Frédéric Ancel et sa connaissance, malheureusement, on peut pas dire que ce soit quand même l'habitude dans les commentateurs sur de faire ces différenciations entre le musulman modéré qui est conscient que le djihadisme est un danger même pour sa propre civilisation d'ailleurs. Et ça, je crois que c'est bien de le rappeler, de faire un peu le tri, parce que on est à une époque d'amalgame et c'est un peu beaucoup plus que dangereux.
Frédéric, encore un mot et puis...
C'est juste, mais d'autant moins d'amalgame que la majorité, on le dit mais il faut répéter, des gens qui ont été, des hommes et des femmes, surtout des femmes, qui ont été spoliés, martyrisés, abattus par les terroristes djihadistes dans le monde sont des musulmans. La majorité des États qui ont été frappés, je pense notamment au Maroc dans les années 2000, mais d'autres États bien sûr depuis, sont des États musulmans. Autrement dit, aujourd'hui, la coalition anti-djihadiste, elle passe par la quasi-totalité du monde, y compris bien sûr du monde arabo-musulman.
Alors, Syrie, Libye, deux pays observés également, en tout cas j'espère, par le futur locataire de la Maison Blanche, Donald Trump, qui va donc arriver au pouvoir le 20 janvier, donc dans un gros mois maintenant. Tiens, Donald Trump désigné personnalité de l'année selon Time. Justifié ou pas? Tiens, allez, Jean-Luc Sauron.
Ah ben, justifié dans l'avenir que ça nous promet, oui, c'est-à-dire que c'est quand même pour beaucoup la surprise. D'autres avaient prévu ça, mais c'est en effet un bouleversement. Alors maintenant, est-ce que c'est un bouleversement dans un axe Brexit, Trump, voire d'autres prolongements populisme en Europe? On verra bien. Mais je crois que c'est intéressant et de voir, sans ça, qu'il est l'homme de l'année. C'est que ça pointe à nos auditeurs et téléspectateurs que le monde est un. C'est-à-dire que la mondialisation n'est pas qu'économique et que ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Libye, ce qui se passe aux États-Unis, ça nous concernera de manière assez rapide.
Frédéric Ancel.
Oui, personnalité de l'année parce que situation de l'année. Inédite. Jamais un candidat dans l'histoire des États-Unis d'Amérique depuis la fin du XVIIIe siècle et l'indépendance de ce pays, jamais un candidat à l'élection présidentielle ayant été aussi outrancier et contradictoire n'est parvenu au poste suprême.
Alors, Donald Trump qui continue d'étoffer sa future équipe, on voit une catcheuse qui était nommée donc au PME, en charge des PME, le patron d'une chaîne de fast-food en charge du travail, il se dit aussi le relèvement du SMIC, du salaire minimum, un défenseur des énergies fossiles à la tête de l'Agence américaine de protection de l'environnement. On voit quand même beaucoup de représentants de la société civile dans le futur gouvernement. beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de milliardaires aussi. Ça, c'est nouveau, hein, Frédéric Ancel.
Oui, c'est tout nouveau. Puis il faut rappeler que Trump n'avait pas beaucoup de connaissances dans le monde universitaire, hein, par exemple. Il n'en avait pas beaucoup non plus dans le monde diplomatique, moins qu'on puisse dire. C'est un homme de l'économie, c'est un homme de la finance, de l'investissement, et dans une certaine mesure de certains médias. Oui, il met des gens qu'il considère comme étant des gens de confiance, sur la forme comme sur le fond d'ailleurs. Hein. Écoutez, on ne dissout pas le peuple, hein, comme disait Brecht, hein, donc il a été élu, il fait ce qu'il veut. Enfin, ça au moins, si vous voulez, c'est la prérogative présidentielle de choisir, et c'est comme ça partout, de choisir ses ministres et ses hommes-liges. J'ose espérer que parmi les différents points en général contradictoires de son programme à la fois économique et géopolitique, il choisira les plus raisonnables, et surtout il choisira de trancher entre ces contradictions, car jusqu'à présent, il a dit presque tout et son contraire.
Jean-Luc Seron.
Je crois que c'est le point très très fort commun entre Trump et les populistes européens, c'est le mépris, le rejet du politique. Du politique en sens que il faut des politiques qui ont l'habitude des affaires publiques. Et là, il a généralisé c'est pas un gouvernement technique, c'est l'inverse. C'est un gouvernement d'entreprise. Et est-ce que véritablement, aujourd'hui, on peut gérer un État comme ça? Je crois que les mois qui vont venir vont être intéressants sur le fait de savoir c'est jusqu'où il va dissoudre le politique. C'est-à-dire comment va-t-il gérer le Congrès? Bien sûr, le Congrès, c'est-à-dire la Chambre des représentants et le Sénat, donc les deux chambres, bien sûr, sont en majorité républicaine. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a un certain nombre de nominations qu'il a faites, pas toutes, devront quand même être validées par le Congrès. Ou les démocrates ont voir quelques républicains un peu dissidents ont une capacité de blocage. On verra bien, c'est intéressant.
Alors Donald Trump, qui n'avait pas attendu la nomination de son secrétaire d'État pour s'emparer lui-même de la diplomatie, avec plus ou moins de bonheur. Alors il avait déjà qualifié le Premier ministre pakistanais de « mec super », irritation de l'Inde. Il avait aussi proposé de faire nommer Nigel Farage, vous savez, le patron de UKIP, comme ambassadeur du Royaume-Uni à Washington. Bon, ben voilà, énervement de Londres. Et puis le week-end dernier, il a pris au téléphone, en direct, la présidente de Taïwan, voilà, en dépit de tous les usages en vigueur depuis 40 ans. Vous savez, les États-Unis qui ont mis en place cette politique de Chine unique, hein, qui ne reconnaissent pas l'île comme État indépendant. D'ailleurs, Pékin a protesté. Le fait que Trump prenne au téléphone la présidente de Taïwan, c'est quoi? C'est une gaffe ou c'était délibéré, Frédéric Ancel?
Moi, je crois pas un seul instant que ce soit une gaffe. Hein. Je veux dire, aux yeux de Trump, je pense absolument pas que ce soit un acte manqué ou un énième propos ou geste un peu scandaleux de campagne. Je pense qu'il le fait de la manière dont il pense que la politique doit être menée, c'est-à-dire avec moins de 140 caractères lorsqu'il a quelque chose à dire sur un président ou sur un chef de gouvernement, c'est-à-dire à marche forcée, y compris avec des personnalités dont il s'entoure qui ne sont manifestement pas ou qui jusque-là en tout cas ne paraissaient pas compétentes à ce poste-là. Et surtout, le problème, c'est que nous avons affaire au renoncement des règles diplomatiques globales, générales. Alors, je ne sais pas comment les Chinois, pour l'instant, les Chinois d'ailleurs sont très pragmatiques, hein. Je veux dire la Chine continentale, bien sûr, Pékin, hein.
Oui, bien sûr.
Pour l'instant, ne réagit pas avec des coups de menton. Ils sont suffisamment pragmatiques pour savoir que c'est une nouvelle forme, on va dire, de gouvernance et de communication présidentielle à laquelle il va falloir s'adapter. Mais attention, parce que je pense toujours à Talleyrand, qui lui est un très très grand diplomate. Talleyrand disait tout ce qui est excessif est négligeable. Il faut pas aller trop loin, parce que les Chinois, sur le fond, mais les Indiens face aux Pakistanais aussi, et d'autres puissances, pourraient jouer également du coup de menton, pourraient également se passer des règles de la bienséance classique, ce qui pourrait passablement gêner ou énerver Trump.
Hein. Et c'est vrai, vous avez rappelé ces fameux 140 caractères, hein, ces Twitter, bien entendu, et c'est vrai que depuis qu'il a été élu il y a un mois maintenant, Donald Trump, il a balancé, je crois, 115, 120 tweets, justement. Et là, en début de semaine, donc en effet, Donald Trump, qui a tensé la Chine sur ses politiques monétaires, sur ses politiques militaires également, il a critiqué Boeing sur le prix du futur Air Force One, Boeing qui a été contraint de se coucher quelque part. Hein. Il a annoncé aussi un super investissement de 50 milliards de dollars fait par l'opérateur de télécom japonais, la SoftBank, aux États-Unis, justement. C'est quoi ces... Ils rompent comme ça avec tous les usages diplomatiques en communiquant sur Twitter, Jean-Luc Seron, c'est du jamais vu ça aussi.
Alors, c'est pas que diplomatique, hein. Je crois que c'est en effet intéressant de voir que c'est une pensée du tweet. Mais c'est pas un imbécile. C'est quelqu'un d'excessif et qui joue de l'excès comme un moyen de communication. Prenons le cas de la Chine. Certes, il a fait ça, mais dans la foulée, il a désigné comme nouvel ambassadeur des États-Unis en Chine un type qui a des très forts liens, très anciens avec l'actuel dirigeant. Donc, il est loin d'être
un ami de la Chine.
Oui, ouais. Non, mais il est loin de ça. Et je pense que
gouverneur.
Moi, je crois qu'il faut insister sur le fait que oui, d'accord, le monde est en train de se tripoliser entre la Russie, la Chine et les États-Unis, et que c'est quand même un monde du rapport de force. De l'excès, parce qu'il faut voir quand même ce que les Chinois, on n'est pas, enfin je crois que nous ne sommes pas habitués quand même à faire les communiqués de presse de la Chine, mais enfin sur la mer de Chine, quand ils y vont, ils y vont. Et quand même, par exemple, la déclaration récente de Vladimir Poutine, rappelez-vous quand même que lui, il cherchait les terroristes jusque dans les toilettes, il avait employé un terme un peu plus...
Dans les chiottes.
Dans les chiottes, voilà. Et il vient quand même aujourd'hui enfin la semaine dernière, de faire une déclaration où il estime que les États-Unis, mais aussi l'Europe, sont une grave source d'instabilité. C'est pas un tweet, mais je pense que c'est aussi extrêmement violent.
Juste, encore un mot, retour là cette fois sur le fond, hein, sur Taïwan. Deux choses. Bon, vous avez dit, c'était pas forcément une gaffe, c'était plutôt délibéré de la part de Trump de prendre au téléphone la présidente taïwanaise. Oui, il n'y a pas un peu d'hypocrisie dans l'histoire, parce que les États-Unis, oui, ne reconnaissent pas Taïwan. Enfin, les États-Unis vendent des armes, maintiennent une quasi-ambassade là-bas à Taipei quand même, Frédéric Ancel.
Sinon, mais sur le fond, c'est extraordinairement logique. C'est juste la forme, hein, la nouveauté extraordinairement parcellisée qui aujourd'hui choque. Alors après, souvenez-vous quand même que ambassadeur ou pas, alors on verra s'il le fera, mais j'en doute, Trump a promis de taxer les produits chinois à hauteur de 45%. Bien. Mais là, si vous voulez, on est, encore une fois, on est dans l'outrance et on est dans le contradictoire. Parce que les Chinois, avec ou sans tweet, peuvent à ce moment-là déverser sur les marchés 1200 ou 1300 milliards de bons du Trésor, et c'est les fondements de l'économie américaine. Donc il ne le fera pas. Donc on est effectivement, je suis assez d'accord avec Jean-Luc, là-dessus, on est sur une nouvelle forme de communication qui se passe des formes habituelles, mais pas d'un certain pragmatisme.
Il brade déjà le poste de secrétaire d'État, quelque part? Il s'en affranchit à l'avance ou pas, en balançant comme ça des tweets, en disant, voilà, il est chez lui, il envoie un tweet contre la Chine, par exemple?
Oui, mais ça, tout le monde le fait.
Ouais.
Et aujourd'hui, dans le monde diplomatique, de façon générale, que ce soit en France ou dans les autres pays, dans les sphères diplomatiques, on sait que l'ambassadeur, en quelques décennies, et en fait en quelques années maintenant, a perdu beaucoup de son pouvoir. Je veux dire l'ambassadeur au sens général du terme.
Oui, bien sûr, le représentant de la diplomatie.
Parce que si vous voulez, autant Colin Court faisait la navette entre Bonaparte et le Tsar, là c'était, on était tout début 19e, autant, et avec un véritable poids, Talleyrand aussi, autant là maintenant, les présidents se parlent, et franchement, en temps de crise, c'est pas totalement une mauvaise nouvelle.
Trump qui accuse la Chine de remilitariser la mer de Chine du Sud, vrai, faux?
Ben ça c'est vrai. Ouais. En revanche, le complotisme c'est idiot. Mais là, Poutine fait assaut de complotisme en considérant qu'il y a une grande manigance des Occidentaux, des Américains, des Européens contre lui. Les Chinois disent la même chose des Américains et nous maintenant on dit, enfin certains milieux occidentaux disent la même chose de Poutine. Tout cela est idiot. En revanche, factuellement, la Chine non seulement remilitarise, mais sur le plan naval et maritime, c'est ça qui est très intéressant.
7 jours dans le monde, on va se retrouver dans un instant avec Frédéric Ancel, avec Jean-Luc Sauron, Renzi s'en va, Merkel sera-t-elle la seule survivante en 2017? A tout de suite sur BFM Business.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et toujours avec nous, il y a Frédéric Ancel, qui est professeur de relations internationales à Paris Business School, qui vous propose la géopolitique de la nation France avec Yves Lacoste. Jean-Luc Sauron, professeur de droit européen à Paris Dauphine. Faites l'Europe, pas la guerre. Voilà, le continent européen également au cœur de l'actualité de la semaine qu'on revoit donc dans 7 jours dans le monde sur BFM Business, à la télé et à la radio. Alors, l'Autriche qui dit non à l'extrême droite, la CDU qui réélit Angela Merkel, plus ou moins triomphalement, on va le voir. Le Brexit qui sera déclenché normalement dans 4 mois. Et puis l'Italie sans Matteo Renzi. Son référendum sur la réforme des institutions, il a échoué dimanche dernier à presque 60% du non. Référendum qui prévoyait entre autres un rôle moins important du Sénat, moins de parlementaires également. Sur quoi Matteo Renzi a-t-il perdu, Jean-Luc Sauron? Sur quoi s'est-il brisé les ailes?
Je crois qu'il s'est brisé les ailes aussi sur son discours. C'est-à-dire qu'il avait tellement dit qu'il allait renverser la table et qu'il allait redémarrer et qu'il y a eu le Jobs Act, c'est-à-dire une remise en cause assez importante des règles du marché du travail en Italie. Il a fait un ensemble de choses, et là il voulait s'attaquer à la politique institutionnelle, c'est-à-dire rendre efficace l'appareil italien, l'appareil étatique. Et il faut bien reconnaître que les Italiens ont vu les réformes, mais n'ont pas vu les résultats, et qu'aujourd'hui il y a une crise assez importante. Moi, je trouve que ce qui est intéressant à retenir de Renzi, l'épisode italien, c'est de s'interroger de savoir si l'Italie c'est un archaïsme en Europe ou si c'est un laboratoire. Je crains malheureusement que ce soit plus un laboratoire. Et si nous prenons
expliquez
les deux caractéristiques, c'est-à-dire que l'Italie est souvent en avance, c'est-à-dire que je dirais qu'en même temps il y a eu Berlusconi, on s'est beaucoup jaugé, qui était vraiment l'irruption de la communication dans le domaine politique, que Renzi d'ailleurs a suivi dans son domaine, dans sa partie d'opinion. Et puis en France c'est rentré, et puis c'est, je crois qu'il y a une place de la communication qui est extrêmement redevable aux Italiens. Pour moi, si on regarde l'Italie, c'est quoi la crise de Renzi ? C'est, les Italiens ont sorti les sortants, et deux, en réalité, ils veulent pas de rupture, ils veulent pas de réforme, ils veulent le maintien des avantages ou la situation sociale quand elle est correcte.
C'est quoi, la réforme est impossible en Europe ?
Eh bien, je pense que si vous regardez, parce que derrière, bien sûr, nous, en tant que Français, État centralisé, on a un peu de mal à comprendre pourquoi ne pas renforcer l'État italien. Et en réalité, si on creuse un peu, la réforme du Sénat, les Italiens ont ressenti comme un paravent pour que ceux qui étaient dans la région, qui étaient poursuivis par corruption, s'auto-amnistient dans un cadre, ils s'auto-désignaient eux-mêmes, parce qu'il n'y avait plus d'élection très minoritaire de sénateurs, mais les régions désignaient leurs sénateurs. Étant sénateurs, ils étaient judiciairement protégés. Il y a une campagne là-dessus. Je crois que la place de la corruption dans la vie publique en Europe est quelque chose de majeur. Et là où je veux dire les convergences avec l'Autriche. L'Autriche, l'élément intéressant.
On va le voir dans un instant, hein.
Qui peut aussi intervenir pour un grand pays qui nous est cher. C'est que le vote pro extrême droite, c'était les campagnes. Et que Alexander Van Bellen, celui qui est devenu président, a massivement gagné dans les villes. Ouais. Et cette coupure campagne-ville, campagne urbaine, c'est quelque chose que nous pouvons projeter en France. La carte électorale du Front National, c'est quasiment la même carte électorale, je dirais, que le FPE, enfin le parti extrémiste de droite en Autriche.
Revenons sur l'Italie. Là, il y a eu vraiment une coupure nord-sud. Mais enfin, c'est vraiment, il y a eu trois régions du nord qui ont voté en faveur de Renzi. De mémoire, il y avait l'Émilie-Romagne, c'est-à-dire Bologne, Trentin, au Adige, c'est-à-dire la frontière autrichienne, et puis Toscane, bien sûr, Florence, qui est la ville de Matteo Renzi. Vote anti-Renzi, déception sur l'économie italienne, vote contre l'Europe ou pas ?
Alors, sur ce plateau, dans une autre émission, on avait évoqué le retrait par Renzi du drapeau européen. Mais ce qui est intéressant, c'est que Renzi a perdu les élections en s'opposant à l'Europe, parce que il a commencé à dire c'est Bruxelles qui me bloque. Rappelez-vous l'incident qu'il a fait à Bratislava en sortant du Conseil européen, en refusant une conférence de presse franco-allemande, italo-allemande, en disant moi je viens pas là pour lire un script déjà écrit, et remettant en cause à Bruxelles sur le sauvetage, des banques italiennes. Il est très en relation avec ça. Et Van Bellen, il a gagné en Autriche en disant liberté, égalité, solidarité, Europe. C'est-à-dire que Van Bellen a aussi gagné l'opinion publique autrichienne en disant « Attention, se joue dans l'élection actuelle l'appartenance de l'Autriche à l'Europe. Ouais. » Et ça, c'est intéressant, c'est de voir quand même qu'il y a c'est drôle, c'est un électorat très contradictoire qui peut être très agressif sur l'Europe, mais qui ne se sent pas intuitivement, comme en France, il y a une majorité de gens pour l'euro, même s'il y en a beaucoup qui contestent les contraintes de l'euro. Et ça, je crois que c'est intéressant à relever, parce qu'il y a une européanisation des politiques.
Est-ce qu'on peut faire, on a eu un autre événement dans la vie politique européenne cette semaine, c'est le départ de Manuel Valls, chez nous, donc, qui a quitté son poste de Premier ministre pour se lancer dans la présidentielle. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les deux, avec la démission de Renzi ? C'est quoi ? C'est l'usure du pouvoir, la fragilité du pouvoir, l'échec de la social-démocratie ? Comment vous voyez les choses, Jean-Luc Sauron ?
Alors, ce qui est intéressant de voir, en effet, c'est que Matteo Renzi et Manuel Valls sont arrivés quasiment en même temps, aux mêmes fonctions. On avait un sentiment, nous avons un sentiment à l'époque que c'était la génération, ils ont tous proche de 50 ans, la génération des 50 ans qui venait remplacer. je crois, et ça je pense vraiment, c'est que vous ne pouvez comprendre la situation politique de votre pays et la campagne qui devrait être faite l'année prochaine qu'en regardant ce qui s'est passé ailleurs. C'est-à-dire que malgré les frontières qui se maintiennent, il y a une sorte d'européanisation des réflexes de population, parce que finalement, chacun, et par des missions comme les vôtres, mais pas uniquement, suit de plus en plus ce qui se passe ailleurs, et nous apercevons qu'il y a finalement beaucoup encore de différences. L'Europe est encore très hétérogène, elle le restera. Mais il y a des convergences sur le débat politique, l'organisation des débats. Bien sûr, ça passe aussi par le fait que tous ces hommes se croisent quand même. Il faut savoir que ces hommes passent l'année à se croiser dans les conseils des ministres, dans les manifestations européennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous élisez un ministre ou un premier ministre ou un président de la République, bien sûr, il est l'expression de son peuple, mais il est aussi en permanence avec les autres élus. Et ça, c'est une innovation, une nouveauté.
Un mot, Frédéric Ancel, aussi bien sur le départ de Renzi que la victoire du Vert, Alexander Van den Bellen, à la présidentielle autrichienne avec 53% des voix face à Norbert Hofer, avant qu'on aborde l'Allemagne, bien sûr, avec CDU. La CDU sera-t-elle la survivante? Je vais poser la question, Angela Merkel.
Je crois pouvoir penser qu'en Autriche, il y a eu, par un faux paradoxe, une réaction aux différents votes considérés quand même par une partie importante, voire majoritaire, des gens comme des votes négatifs. Du Brexit à l'élection de Trump, en passant par ce qui se passe en Slovaquie, en Hongrie, qui est à côté de l'Autriche, je pense que les Autrichiens, une partie de ceux qui avaient voté pour le candidat extrême droite ou qui n'avaient pas voté, quelque part ont eu peur. Et ce sont... Je n'ai pas.
Ils ont peur quoi? Parce qu'il y a eu la fameuse Gertrude, 89 ans, donc une rescapée de la Shoah, qui est intervenue. Sa vidéo a été multidiffusée sur YouTube en disant. Voilà, il faut voter Van der Bellen.
Je ne suis pas convaincu. Alors, il faudrait des outils extrêmement pointus pour savoir si, dans quelle mesure ça a pu jouer. Mais en tout cas, peur pour l'image de l'Autriche. Ça, je crois que c'est quelque chose à laquelle beaucoup d'Autrichiens sont extrêmement sensibles. Pour l'Italie, le problème, c'est que avec Renzi, comme avec beaucoup d'autres hommes d'État modérés, eh bien, on cherche à faire du neuf, même lorsque lui-même et l'été, il y a encore très très peu de temps. Donc cet affadissement, affaiblissement du politique pose quand même problème.
Alors, le mini G5 de Hanovre, on est en décembre 2016, c'était en mai 2016, c'était en mai dernier. On y voit qui? On y voit Obama, pas bientôt parti évidemment, ce sera le 20 janvier prochain. Renzi, c'est fini. Hollande, il aura disparu en 2017. Cameron, lui, il a disparu déjà depuis cet été. Et puis Angela Merkel, eh bien, toujours là, donc prête à rempiler d'ailleurs pour un quatrième mandat en 2017, est réélue mardi à Essen lors du congrès de la CDU, donc à seulement 89,5% des voix. Oui, c'est moins bien que d'habitude, ce qui ne l'a pas empêché de remercier les congressistes pour leur confiance.
Lieber Armin Laschet, liebe Delegierte, ich nehme die Wahl an und freue mich über das Ergebnis. Herzlichen Dank für das Vertrauen.
Ouais, j'étais à moitié ironique quand je disais seulement 89,5% des voix. 2014, c'était 96% des voix pour Madame Merkel. Ça traduit quoi? Un doute vis-à-vis de Angela Merkel, Jean-Luc Sauron, doute sur sa politique migratoire, 900 000 migrants donc l'an dernier, doute sur une politique pas assez à droite d'Angela Merkel.
Ben, je crois que les Allemands ont beaucoup de mal à digérer la crise migratoire, à juste titre. Et c'était étonnant cette semaine de voir que l'ensemble de la classe politique allemande, des partis traditionnels, partis sociaux-démocrates et conservateurs, sont intervenus sur un fait divers, où une jeune Allemande de 17 ans a été assassinée, aurait été assassinée, puisque les faits sont, il y a des indices, mais il n'y a pas de fait, par un réfugié afghan. Et ça, ne faites pas l'amalgame. On parlait tout à l'heure d'amalgame. Et ça, je crois que c'est extrêmement important de sa fragilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde dit c'est bon, les 89%, même avec là. En effet, la baisse, que il n'y a pas signalé, mais il y a eu un congrès régional avant où il s'est fait beaucoup chahuter. Et je crois qu'il y a vraiment... je ne prendrai pas les paris à 100% sur sa réélection en septembre, parce que l'extrême droite allemande est extrêmement forte. Et nous verrons d'ici septembre, il y a mars 2017, les élections néerlandaises, il y a un fort lien entre les deux. Et puis, mai-juin, il y a la France. Et je pense que l'élection française sera aussi une des clés de la réélection ou pas de la chancelière allemande en septembre 2017.
Il y a aussi à l'intérieur de la CDU une frange à droite qui lui demande de réintroduire le service national, de retirer les subventions aux landers de gauche qui ne vont pas assez de reconduite à la frontière, de supprimer la double nationalité, certains allant même jusqu'à affirmer que l'islam ne fait pas partie de l'Allemagne. Qu'est-ce que répond Angela Merkel à cette frange de droite incarnée notamment par le jeune Jens Spahn à l'intérieur de la CDU où là on n'est pas en AFD hein?
D'abord, elle répond par des mesures restrictives sur l'immigration.
Ben voilà, ça
pour le fait
voilà.
qu'elle a dit que...
Plus grande fermeté en matière
d'immigration. Plus grande fermeté pénale.
Des demandeurs d'asile qui n'ont pas obtenu le droit de rentrer
en Allemagne. Plus grande fermeté sur le contrôle des entrées. Et vérification et beaucoup plus grande, je dirais, taux d'expulsion de ceux qui n'ont pas un place avec là. Mais sur un des points que vous avez cité sur la solidarité entre Länder, en fait, de gauche et de droite, grosso modo de l'Ouest et de l'Est, d'ailleurs. Mmh. C'est ça le problème. J'étais frappé de voir qu'aujourd'hui, il faut le savoir, il y a une campagne en Californie pour rendre la Californie indépendante des États-Unis. Et un des motifs, c'est que le système interétatique fonctionne comme ça aux États-Unis et que la Californie, État riche, paye pour les subventions d'autres États américains plus pauvres. Et ça, on voit bien qu'il y a une remise en cause de la simple solidarité à l'intérieur, mais ça c'est les vieux. On a l'impression que la crise actuelle joue un rôle de révélateur photographique.
Le Royaume-Uni, parce que en effet aussi beaucoup d'actualités dans 7 jours dans le monde, beaucoup d'actualités européennes avec les députés britanniques qui votent, qui s'engagent à ce que le fameux article 50 du traité de Lisbonne soit invoqué d'ici le 31 mars, en clair, d'enclencher la sortie de l'Union européenne. Michel Barnier, qui est le négociateur de l'Union européenne pour le Brexit, se donne 18 mois pour conclure un accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il prenait la parole pour la première fois en début de semaine.
Le marché unique et la libre circulation des biens, capitaux, services et personnes sont indivisibles. L'Europe à la carte n'est pas une option.
Cherry-picking is not an option.
Voilà, l'Union européenne veut être ferme, hein, Jean-Luc Sauron. Les délais seront tenus, le Brexit est lancé cette fois ou pas ?
Alors, une chose, vous venez de dire que de l'Union européenne, non, Michel Barnier, c'est le négociateur de la Commission européenne.
Il y a plusieurs négociateurs.
Ils ne seront pas tout seuls. Ouais. C'est aussi le charme, c'est que d'un côté, il y a la Grande-Bretagne, il y a l'autre qui a une division importante, et dans les négociateurs, et dans les États pour négocier. Sur le délai, de toute façon, il y a un problème, il faut bien que nos auditeurs, téléspectateurs le sachent. De toute façon, il y a 2 ans qui vont s'écouler entre, mettons, le 31 mars 2017, une fois que les Grande-Bretagne aura notifié un article 50, on enclenche un chronomètre qui dure 2 ans. Et si au bout de 2 ans, l'accord n'est pas trouvé, il faut l'unanimité des États pour prolonger le délai. Et à mon avis, personne ne peut le faire. Non pas politiquement, mais parce que dans 2 ans, c'est les élections au Parlement européen, nouvelle commission. Et on voit mal l'Union européenne faire élire des députés européens en Grande-Bretagne et nommer un nouveau commissaire. Pourquoi ? Pour quelques mois, pour un an ? C'est grotesque. Donc en réalité, il y a la frontière politique de la nouvelle élection de la Commission européenne en 2019 qui va enfermer le délai dans les 2 ans. Quoi qu'il advienne, si pendant ces 2 ans, il ne se passe pas une crise politique importante en Europe, ailleurs.
Justement, tiens, un mot chacun, Frédéric Ancel, Jean-Luc Sauron, France et Italie, 2 pays sans gouvernement solide, hein, pendant des mois. La Grande-Bretagne, déstabilisée par le Brexit, l'Allemagne en campagne électorale. On est une Europe en crise, là ?
Oui, c'est une Europe en crise, et non seulement en crise politique et institutionnelle, surtout politique pour l'instant, bon, mais institutionnelle aussi, on l'a bien vu avec l'Italie, mais en crise sur l'ensemble du continent autour de questions identitaires liées notamment aux migrants et au rapport à la Russie. Hein, on en avait parlé lors d'une de ces émissions précédentes. Entre, grosso modo, les Français, les Britanniques, les Allemands, les Néerlandais, d'une part, et l'Europe centrale et orientale, d'autre part, il y a un fossé de perception de l'espace, de l'histoire, du temps, des migrants, de la Russie, de la paix et de la guerre. Et regardez à quel point, en Europe de l'Est, on se moque non seulement des crises politiques de l'Europe de l'Ouest, où on considère que, décidément, à l'Ouest du continent, on est extrêmement faible sur le plan des valeurs et sur le plan de la politique, mais d'autre part, on ne veut pas accueillir le moindre migrant.
Jean-Luc Sauron.
J'ajouterai une division Est-Ouest, une division Nord-Sud, entre ceux dont l'économie fonctionne et ceux dont l'économie a du mal à refonctionner. Et je crois que ça fait beaucoup. Je crois que c'est intéressant de voir que dans la campagne politique française, telle qu'elle a démarré par la première à droite et bientôt première à gauche, personne n'a d'idée sur l'Europe, à l'exception de Marine Le Pen, qui propose une sortie, un Frexit, un référendum.
Jean-Luc Sauron et Frédéric Ancel, qu'on va retrouver dans un instant avec la présidente de la Corée du Sud destituée. Et puis un autre président qui ne risque absolument pas la moindre contestation, c'est le nouvel homme fort de l'Ouzbékistan. Rendez-vous dans un instant, 7 jours dans le monde sur BFM Business.
BFM Business, 7 jours dans le monde.
Edouard, si vous m'aimez, prouvez-le-moi.
Mais vous avez déjà tout, ma chérie. Des bijoux, un jet, un yacht, une propriété à Saint-Tropez.
Je voudrais autre chose, Edouard. Quelque chose qui soit très doux et qui dure.
J'ai compris, Maria, mais vous voulez un vrai cachemire.
Oui, Edouard, un vrai cachemire Richard Grand. 229 rue Saint-Honoré, à deux pas de la place Vendôme. RichardGrand.com, pour ceux et celles qui ont déjà tout.
Demain, 20h50, sur RMC Découverte, c'est la ruée vers l'or. 4 équipes d'orpailleurs et 4 mois pour faire le plein de pépites dans l'extrême nord du Canada. Que les meilleurs gagnent. Yukon Gold, l'or à tout prix, c'est demain, dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction. Canal 24.
Pour voir ou revoir, écouter ou réécouter tout BFM Business, connectez-vous sur bfmbusiness.com, rubrique replay.
Vous avez donné de la flexibilité, vous avez donné éventuellement le sentiment que vous alliez augmenter le précariat sans mettre quelque chose dans l'autre plateau de la balance.
Tout BFM Business en replay sur bfmbusiness.com.
Les monnaies, c'est un foutoir mondial. Ça fait maintenant 50 ans que ça dure. Pour dire la vérité, on ne contrôle plus rien. Tous les hedge funds, en fait, s'en prennent plein la figure, entre autres à cause des monnaies.
Retrouvez tous les replays de BFM Business sur bfmbusiness.com.
Je pense que toutes ces monnaies nous jouent des tours tous les jours parce que plus personne ne maîtrise rien.
BFM Business Replay, le meilleur de BFM Business.
Le meilleur de BFM Business.
BFM Business, toute l'écho pour vous.
Pour vous.
BFM Business.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
7 jours dans le monde, toujours avec le professeur Jean-Luc Sauron, professeur de droit européen à Paris Dauphine, et Frédéric Ancel, qui enseigne à la fois à Sciences Po et puis à Paris Business School. Après des week-ends de manifestations fleuves en Corée du Sud, spécialement à Séoul, avec à chaque fois plus d'un million de personnes quand même dans les rues, imaginons un million de personnes, la présidente Park a donc été destituée ce vendredi après-midi par le Parlement, provoquant des scènes de joie dans la capitale. On le rappelle, elle était engluée dans un scandale politico-financier centré sur une vieille amie de 40 ans, la vieille amie de la présidente, accusée d'avoir usé de son influence pour favoriser des grands groupes industriels, moyennant évidemment des pots de vin de quelques millions de dollars. La présidente Park s'est d'ailleurs excusée après sa destitution, allocution publique.
Cet après-midi, le Parlement a voté la motion de destitution. Je m'excuse profondément auprès de tous les citoyens pour avoir causé ce chaos national au milieu de problèmes économiques et de sécurité nationale. Tout ça à cause de ma négligence.
Voilà, la présidente sud-coréenne, Madame Park, qui s'excuse donc à la télévision publique. C'est pas une première, Frédéric Ancel. Depuis la fin de la dictature, donc à la fin des années 80, depuis les premières élections libres, tous les présidents ont eu plus ou moins maille à partir, donc avec des affaires de corruption.
Oui, c'est à la fois une mauvaise nouvelle et une très bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la classe politique sud-coréenne est aussi corrompue, sinon plus peut-être d'ailleurs que d'autres classes politiques dans le monde, non pas occidentales, mais démocratiques. La Corée n'est évidemment pas un pays occidental, c'est un pays démocratique. Et puis la deuxième nouvelle, mais celle-là elle est très bonne, c'est que la justice, elle tient debout. Et vous n'avez pas, depuis les années 80 effectivement, de menace de retour à une junte militaire au pouvoir, comme ça a pu se produire, ça s'est pas produit, mais ça a pu se produire récemment au Brésil, par exemple. On a eu très peur du retour de l'armée qui s'en était retournée dans les casernes en 86. En Corée du Sud, ça tient le coup. Donc on a à la fois un vrai libéralisme, une vraie ouverture économique, une ouverture aussi politique, et ça fait maintenant un peu plus de 40 ans que ça dure, dans un contexte qui n'est pas facile, car je rappelle quand même, mais vos auditeurs et vos téléspectateurs le savent parfaitement, que la Corée du Nord ne présente pas très exactement les mêmes aspects institutionnels.
Nécessairement. Et c'est la première fois qu'un chef d'État comme ça, en Corée du Sud, élu démocratiquement, Jean-Luc Sauron, donc, est jeté dehors.
Moi, je suis assez admiratif, en effet. Pour trois éléments, enfin, il faut dénoncer que la corruption est un mal endémique de tous les régimes. Bien sûr, les régimes communistes ou dictatoriaux sont également super corrompus. Mais sauf qu'il n'y a pas de presse pour le faire, il n'y a pas de remise en cause du président. Deuxième élément, je crois que c'est quand même une population qu'on a toujours présentée comme très soumise, très disciplinée, très... Là, ils sont tous, en effet, un million, mais dans un pays comme la Corée, c'est l'équivalent
un million de... sur 40 et quelques millions d'habitants.
Oui, mais je veux dire, ce sont pas des pays habitués à la manifestation.
Beaucoup de jeunes, hein, qui avaient pris le pouvoir.
Il faut voir ça avec la campagne des parapluies, mmh. démocratie parapluie à Hong Kong. Je crois qu'il se passe quelque chose en Orient. Et c'est une scène de crise. Je sais pas si les Chinois sont pas plus inquiets par ce sursaut démocratique que par des manifestations militaires. Je pense qu'ils ont peur de la contagion.
Alors, de tels cortèges pourraient-ils avoir lieu en Ouzbékistan? Non, probablement actuellement, quoique, il y a 10 ans, hein, une manifestation dans la ville, dans l'est de l'Ouzbékistan, à Andijan, donc, avait été sévèrement réprimée avec des armes de guerre. Hein. Il y avait eu des centaines de civils qui avaient été tués, voire plus d'un million, on ne sait pas exactement. À l'époque, la dictature était aux mains du président Karimov, indéboulonnable depuis la fin de l'Union soviétique en 91 jusqu'à sa mort en septembre dernier. Et son successeur a été élu donc avec 88% des voix. C'est l'ancien Premier ministre, monsieur Shavkat Mirziyoyev. Frédéric Ancel, c'est l'ancien gouverneur de Samarcande. Il est complètement dans la lignée de son prédécesseur. Hein.
Oui, absolument. Et avec, en particulier, une auto-justification en tout cas, qui est l'épouvantail, figurez-vous, de l'islamisme radical. Alors, voilà. Je précise qu'évidemment, l'Ouzbékistan est un pays à grande majorité musulmane. Mmh. C'était l'une des républiques musulmanes ex-soviétiques, qui a été en proie à des menées dans le Fergana,
dans l'Est, vallée, justement, en Dijan, là, que je citais. Mmh.
À l'époque des talibans, voisins, donc en Afghanistan.
On est tout près de l'Afghanistan, tout près du Tadjikistan également.
Absolument.
La Kirghizie, voilà.
Voilà. Dans les années 80-90, il y a eu des tentatives de pénétration. Et en Ouzbékistan, on ne plaisante pas avec les opposants de manière générale, mais pas avec les islamistes en particulier. Alors le problème, c'est que dans ces pays-là, il se passe ce qui doit se passer et nous, on ne réagit pas. Et on ne réagit pas pour cette raison, parce qu'on les considère quand même...
Comme des remparts.
Et par conséquent, ils en profitent. Ça a été vrai aussi du Kazakhstan, enfin de la plupart de ces républiques musulmanes ex-soviétiques, qui sont effectivement aujourd'hui dirigés par des régimes autoritaires.
Et à tel point autoritaire, j'aurais juste cité un article de Pierre Avril dans le Figaro cette semaine qui faisait un portrait de monsieur Mirziyoyev et qui raconte que en octobre 2015, donc il y a un an, les fonctionnaires locaux préparaient une visite d'inspection du Premier ministre de l'époque, donc monsieur Mirziyoyev. Des centaines de cultivateurs de coton avaient reçu pour ordre de récolter donc les plants de coton. L'Ouzbékistan est un gros producteur de coton qu'ils avaient extrait quelques heures auparavant afin que le chef du gouvernement puisse se réjouir à la vue de cette marée blanche. C'est-à-dire qu'ils avaient récolté le coton et pour faire plaisir au Premier ministre de l'époque, ils sont tous allés remettre en l'état les morceaux de coton. Complètement dingue. Hein.
En Ouzbékistan, il n'y a pas que le coton quand même. Hein. C'est un pays majeur en matière d'énergie du siècle actuel. Donc, je veux dire, c'est peut-être ça qui explique cela. Cela dit, il y a aussi beaucoup, quand même, de terroristes Daesh, de la zone, je dirais, ancienne soviétique, qui viennent aussi d'Ouzbékistan. Et c'est quand même une région qui est instable. Alors, c'est vrai que c'est peut-être dommage pour la démocratie, mais, il y a une vraie problématique de liaison. Peut-on les couper, les séparer des Russes? Non. Peut-on, les rapprocher de nous, certainement péniblement, mais peut-on s'en séparer? Certainement pas, parce qu'en termes d'énergie et d'argent, c'est les pays très importants.
Allez, mot de la fin, Frédéric Ancel.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est rester aujourd'hui l'arrière-cour géopolitique de la Russie. Ces républiques musulmanes dont on pensait que dans les années 80 qu'elles allaient être les premières à demander l'indépendance, en réalité ne l'ont jamais demandé, en tout cas bien après que celle du Caucase et évidemment des Pays-Baltes l'eurent demandé et obtenu, et ce sont aujourd'hui les plus fidèles au sein de l'ex-URSS qu'on appelle la CEI.
Merci à tous les deux. Merci Frédéric Ancel, professeur de relations internationales à Paris Business School, auteur avec Yves Lacoste de Géopolitique de la Nation France. Merci également à Jean-Luc Sauron, professeur de droit européen à Paris Dauphine, et qui nous dit en permanence, faites l'Europe, pas la guerre. Merci à tous les deux. C'est fini pour 7 jours dans le monde sur BFM Business. Vivement la prochaine fois.
BFM Business, 7 jours dans le monde.